France Inter.
Le rapport à la police, c'est vraiment quelque chose de clé dans les trajectoires de ces jeunes. Moi, j'ai compris depuis que je suis tout petit qu'il fallait faire profil bas, qu'il fallait s'écraser, qu'il fallait dire « oui, monsieur ». J'ai pu identifier dans mon éducation les moments clés où il fallait la mettre en veilleuse. Or, ces jeunes, ils ont une construction de leur masculinité où ils doivent en permanence être dans le défi et l'affrontement avec tous les représentants de l'institution, que ce soit les professeurs à l'école ou évidemment la police. Donc en fait, les contrôles de police répétés dans ces quartiers, c'est la quasi-certitude que ça va déraper.
Interclasse, Éric Valmire sur France Inter.
Si tu ne crois pas, hey, tarte ta gueule à la récré. Ces mots d'Alain Souchon auront bientôt 50 ans, mais la réalité décrite a certainement encore plus de poids aujourd'hui. Si tu ne crois pas, tarte ta gueule. Le recours à la violence pour imposer une idée, frapper pour exprimer un désaccord. Le geste meurtrier sur Samuel Paty. Les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo pour s'opposer au principe des caricatures. Le meurtre et la barbarie en seule réponse possible. C'est d'ailleurs au lendemain des attentats de janvier 2015 que le dispositif Interclasse a été imaginé. Des journalistes, des techniciens de reportage, des productrices, producteurs, attachés de production ont investi les collèges et lycées pour échanger avec une classe durant toute la saison scolaire. Le temps long de la rencontre, non pas pour distiller la bonne parole et la bienséance, mais pour introduire la notion d'argumentaire. On a le droit de ne pas aimer Charlie Hebdo, et c'est dans la nature des choses. Mais doit-on pour autant user de la violence, du meurtre, de la sauvagerie pour l'exprimer? Interclasse est aussi ça, apprendre à débattre, à argumenter, savoir écouter l'autre, même si l'on n'est pas d'accord avec lui. Et même, peut-être, aller interviewer l'autre, faire une enquête, un reportage, et ce faisant, découvrant les mécanismes du journalisme, devenir un protagoniste de l'information. Car dans les collèges et lycées d'interclasse, il y en avait 15 cette année, plus un club de foot, les jeunes du Red Star à Saint-Ouen, l'un des objectifs est aussi d'amener ces adolescents à exprimer ce qu'ils veulent exprimer. Cette année, et à vrai dire tous les ans, l'une des cordes sensibles porte justement sur la violence. Une expression, un langage, un code, de la violence verbale sur les réseaux, à la violence physique des règlements de compte dans les cités, la violence comme moyen de s'affirmer, la violence entre répulsion et fascination, fascination quand il s'agit d'être accro aux séries Netflix sur les serial killers ou les narcos, l'univers des faits divers, la violence de la guerre sous les yeux, sur les écrans de l'actu. Et pour commencer, une violence plus pernicieuse sur les téléphones. Au lycée Buffon, dans le 15e arrondissement de Paris, les élèves ont voulu revenir sur ce phénomène qui les a heurtés quand, d'un seul coup, vers la 6e, 5e, leurs téléphones se sont ouverts à la toile Internet.
Oh, j'aurais jamais dû l'ajouter. Ah, Burke. Des photos trop cheloues encore.
Moi, ça m'est déjà arrivé sur les réseaux et ça m'est aussi arrivé dans la rue. Bah, du coup, il y a un garçon qui m'envoie une photo. Moi, j'appuie. Et il avait envoyé une photo de son entrejambe. J'étais en 5e, donc je sais pas, je devais avoir
12 ans,
13 ans à peu près.
J'étais en CM2, enfin je rentrais en 6e et j'ai eu mon premier téléphone. Donc j'ai forcé auprès de ma mère et ma mère elle a fait d'accord, tu peux installer Snap, mais tu parles qu'avec les gens que tu connais. Et moi j'ai ton compte sur mon téléphone pour vérifier avec qui tu parles et tes conversations. Et un jour, j'ai eu une demande d'un garçon, mais je connaissais le prénom du garçon, je pensais que c'était mon ami. Et au bout d'un moment, il commençait à me demander des photos, à commencer à m'envoyer des photos et tout. J'allais rentrer en 6e, donc j'avais quoi? J'avais 11 ans.
Ouais.
Et ils insistaient pour avoir Snap, et quand on leur donnait pas, bah...
Ça s'énerve.
Ouais, voilà.
Ça s'énerve contre eux.
Ouais, voilà.
Ouais, beaucoup d'insultes quand tu refuses. Mais c'est comme dans la rue.
Il a dit je veux bouffer le sang de tes règles à la paille.
À la paille.
Hein?
Non mais il y en a, ils sont fous. Hein.
J'en avais parlé à ma mère et elle l'avait pas pris à la légère, mais Instagram elle connaissait pas vraiment et donc elle a dit oh, tu laisses, tu verras avec ton frère. Moi ça m'avait choqué, je comprenais pas pourquoi tout le monde le prenait à la légère et voilà.
La première chose qu'on nous a demandé c'était notre âge. On a couché qu'on avait plus de 18 ans vu que c'était une petite case. On est tombé du coup sur des adultes qui se masturbaient ou sinon sur des fonds noirs. Et dès qu'ils voyaient qu'on était du coup des enfants, ils montraient leur partie génitale. Ensuite, il y a un événement qui m'a beaucoup marqué. C'était ce même jour, on était tombé sur quelqu'un qui s'était du coup pendu et on avait du coup les images devant nous, son corps, et on on pouvait rien faire.
Et ce groupe de jeunes filles s'est vite rendu compte que leur cas n'était pas isolé et que l'on pouvait même parler de phénomène massif. Accompagnées de Valentine Deletoile, journaliste diplômée du CFJ Paris, elles ont mené l'enquête en questionnant dans un premier temps les couloirs du lycée.
J'avais genre 14 ans et j'ai reçu des nudes. Mais j'ai rien demandé, hein, tu vois. C'est un inconnu.
Oui, c'était une photo de son sexe.
C'est vraiment pas très approprié, surtout que j'ai reçu quand j'étais en 5e. Du coup, c'était un peu traumatisant pour moi. Sachant que je connaissais pas comment trop ça marchait Instagram, du coup, les DM, bah, je les ouvrais comme ça.
La dernière dans ma classe, il y avait une fille, un garçon dans la classe qui lui avait envoyé son sperme sur Snapchat.
En faisant des recherches, elles se sont demandé vers qui elles pouvaient aller pour avoir de l'aide.
Bonjour.
Alors, elles sont allées demander à la ministre de l'Enfance, Charlotte Kobel.
Il faut appeler le 3018 parce que le 3018, non seulement pourra, le cas échéant, si ce n'est pas sur une messagerie privée, obtenir des retraits, mais pourra signaler l'adresse IP et pourra obtenir une enquête d'un service qui s'appelle Pharos et qui est un service de policiers qui travaille tous les jours pour rendre notre Internet plus sûr. Si vous appelez le 3018, on arrive à faire retirer en une heure des contenus inadaptés pour les enfants. L'année dernière, il y a eu 10 000 retraits de contenus malveillants ou plus ou moins malveillants demandés par des jeunes qui ont obtenu ce retrait. On pense qu'un parent sur deux ne sait pas ce que leurs enfants font avec leur téléphone et les réseaux. Une image porno sur un enfant de 10 ans, peut-être sur une jeune fille de 15 ans, c'est quelque chose d'un peu violent quand même, hein, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la sexualité, on ne sait pas du tout ça. Donc, là, à 10 ou 11 ans, hop, image du porno. Donc, certains médecins considèrent que ça fait presque l'impression d'un viol, d'avoir une image comme ça, et donc ça conduit à des troubles du sommeil, ça conduit à des comportements inadaptés des enfants en matière de sexualité et tout, donc voilà. C'est important que les parents connaissent ça, parce qu'ils n'imaginent pas.
Réunis un samedi après-midi, Juliette et ses copines décident d'appeler le 3018.
Alors, si Juliette, elle nous appelle, la première chose qu'on lui demanderait, c'est sur quel réseau ça se passe. Si par exemple, typiquement, Juliette, elle reçoit ses sollicitations sans son consentement sur Snapchat, ce qu'on va demander à Juliette, c'est de prendre des captures d'écran de ses propos, l'identifiant du compte, avec un petit résumé de la situation. Ensuite, ce qu'on expliquerait à Juliette, c'est que tout du long du signalement, elle serait en relation avec l'équipe juridique. Une fois qu'au niveau des réseaux, on lui a expliqué que nous, on a pu tout faire remonter, on peut faire remonter, qu'on a besoin de ces éléments-là et que c'est OK pour elle, on va pouvoir aussi s'intéresser à comment est-ce que Juliette, elle se sent par rapport à cette situation. Est-ce qu'elle a déjà pu en parler à des personnes de confiance? Puis aussi s'intéresser à quel âge a Juliette. Est-ce que Juliette est majeure? Est-ce qu'elle est mineure? Est-ce que ses parents sont au courant de la situation?
Juliette est fictive, mais son histoire est réelle.
T'es enfin chez toi. Tu te poses sur le canapé. T'allumes l'ordi. T'as un message instantané. Hey, salut, l'ami, c'était vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé. Mais moi, je paierai même pas pour des nems à volonté parce que t'en vaut pas la peine. De toute façon, t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr, tu fais la mort parce que tu te crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna.
Quand on parle de violence, on pense évidemment au règlement de compte, surtout dans les cités. Au RICS, on croirait un langage naturel, une évidence. Au collège Georges Rouault, dans le 19e arrondissement de Paris, la zone de la Porte de Pantin, les élèves ont voulu évoquer ce phénomène des RICS, avec pour les accompagner Elodie Wilfried et Tanita Fallet. La parole à Bradley, Bachir, Younes, Livia et Sarah, qui n'en peuvent plus des violences entre bandes.
C'était il y a 10 ans, et pourtant, Rosa s'en souvient comme si c'était hier. Car cette mère de famille du 19e arrondissement de Paris a eu la peur de sa vie. En 2014, elle a été victime de harcèlement moral et physique de la part d'une voisine.
Elle a subi des coups, des crachats, des menaces après une banale querelle de voisinage. Pour faire pression sur Rosa, cette voisine a joué sur l'intimidation en utilisant les jeunes du quartier.
Les jeunes du quartier, elle les a mêlés le jour où j'étais dans un centre d'animation pour assister au spectacle. C'était presque la fin de l'année. Cette personne me saute dessus carrément. J'essaie de sortir avec mes enfants Et à ce moment-là, je vois une foule, tous les jeunes du 19e. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'appelle la police, j'essaie de sortir avec les vigiles, mais chaque coin, il y avait des jeunes. Et la police ne fait rien. Donc à partir de là, je ne sors plus de la maison parce que les menaces étaient tout le temps. Je ne pouvais plus déposer les enfants à l'école. Et je passais par le parking d'une façon très discrète, doucement et tout. Mais malgré ça, j'étais surveillée. J'ai écrit au monsieur le maire du 19e. Là, il m'a dit, je vais essayer de faire quelque chose pour vous. Je vais essayer de vous faire partir du quartier. Donc, j'ai déménagé. Il me reste quand même des séquelles. J'ai essayé de tourner la page. De temps en temps, ça me revient.
Après notre rencontre avec Rosa, nous nous sommes rendus à la mairie du 19e arrondissement pour discuter avec Hadji Aoudjian.
On avait rendez-vous avec Hadji Aoudjian.
Il est l'adjoint au maire en charge de la prévention de la sécurité.
Là aujourd'hui, la grosse difficulté que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup moins de rixes, mais elles sont de plus en plus violentes. Il y a quelques années encore en arrière, quand on avait une rixe, c'était parfois bon, une bagarre par-ci, une bagarre par-là, à coups de poing. Là aujourd'hui, vous avez des jeunes qui vont utiliser des couteaux, des armes à feu, parfois des très jeunes, puisque c'est de plus en plus des collégiens par exemple. Comment on aide les jeunes ? Sur ce sujet, c'est très difficile, puisque déjà, on est très souvent sur un sujet qui est du ressort de la police. Donc on travaille beaucoup avec les familles, on travaille beaucoup avec les acteurs associatifs qui sont sur le terrain pour justement diminuer ce phénomène.
Parmi les associations particulièrement impliquées à Paris, on trouve les Mamans de la Banane. Ce nom fait référence à un quartier du 20e arrondissement entre Ménilmontant et Père-Lachaise. Khadi Mané est la fondatrice de l'association.
J'ai créé cette association parce que j'ai connu un jeune qui a été tué dans une rixe et son histoire m'a tellement touchée. Parce que quand une famille est touchée, nous sommes tous touchés. Un enfant qui meurt dans une rixe, on l'a vu grandir. Ces phénomènes de bandes peuvent détruire des familles, détruire tout un quartier et toute une nation. Parce que le jeune, c'est l'avenir.
Que faites-vous pour lutter contre les rixes ?
J'organise des événements où j'invite les jeunes. Mais je me suis dit, pour atteindre les jeunes, je vais d'abord sensibiliser les parents. Donc les réunions, c'était comme des cafés de parents où les mamans venaient s'exprimer. Moi, je suis très optimiste, particulièrement aux jeunes de mon quartier, parce que je les connais. Je sais que le combat ne va pas être facile, mais on va y arriver. Qu'on s'investit tous et qu'on lutte, et en étant nombreux et conscients, il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, comme on dit.
Khadi Mané compte poursuivre avec acharnement ses actions auprès des jeunes et des parents. Elle a d'ailleurs récemment organisé la fête du quartier avec un objectif, favoriser le vivre ensemble.
Et le fait que ces jeunes collégiens du quartier souhaitaient faire un reportage sur ces actions de prévention est plutôt encourageant. À suivre, Karina Chatin et Jennifer Elbaz, super-héroïnes contre le cyber-harcèlement. C'était Archive sur Inter, la bande-son des collégiens et lycéens d'Interclasse.
Le virtuel a tendance à modifier des comportements. On se retrouve parfois à dire, écrire ou même partager des choses qui nous dépassent et qu'on n'aurait jamais dit dans la vraie vie. On peut souvent les regretter. Comment sensibiliser les utilisateurs à rester eux-mêmes sur Internet ?
C'était la question d'Emeline adressée à Karina Chatin et Jennifer Elbaz que nous retrouvons toutes les semaines dans Interclasse. Karina et Jennifer de la CNIL, bonjour.
Bonjour.
Alors pour répondre à cette question, je ne sais pas qui, Karina.
Oui, tu as raison. C'est vrai que lorsqu'on est sur Internet, on peut avoir le sentiment, un sentiment d'impunité et donc dire des choses qui nous dépassent, qui sont un peu violentes. Et ça peut conduire même à du cyberharcèlement. Donc, on va juste rappeler que le cyberharcèlement, c'est un délit hein, qui est puni par la loi. Et plus la personne jeune est harcelée, plus la sanction va être lourde vis-à-vis du harceleur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un mineur harcèle un autre mineur, eh bien, c'est le parent qui va être mise en cause, qui va être responsable devant la loi. Donc il faut vraiment faire attention avant de se lancer là-dedans, parce qu'en fait, la personne qui est harcelée va vivre un enfer 24 heures sur 24, parce que le harcèlement ne va pas s'arrêter à la cour d'école, mais se prolonger jusqu'à la maison, via les réseaux sociaux. Et donc, le fait même de liker une vidéo humiliante ou une photo humiliante, c'est aussi considéré comme du harcèlement. Donc ça, on n'a pas forcément toujours conscience. Et donc, la personne qui vit ça, bah, elle va être blessée et ça va aussi affecter son entourage proche, sa famille, voire, si elle est plus âgée, son environnement professionnel. Et donc, lorsqu'on crée un compte sur un réseau social, il faut faire attention, car plus on va dévoiler d'informations personnelles, de données personnelles, plus on va s'exposer et finalement, moins on va protéger sa vie privée et donc on va pouvoir être la cible de cyberharceleurs. Et donc, le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de réfléchir avant de partager ou de diffuser ou de liker une photo ou une vidéo dans laquelle apparaît quelqu'un de manière dégradante ou humiliante. Et aussi éviter de donner des informations personnelles ou des données personnelles sensibles lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, comme par exemple la religion, les opinions politiques, l'état de santé. Et aussi, dernier conseil, eh bien, il faut respecter les autres. De la même manière que quand on est dans la rue, on ne va pas aller gifler une personne qui voilà, ne nous convient pas. Eh bien, sur Internet, on ne va pas insulter comme ça, de manière gratuite. Donc Internet, ce n'est pas le Far West, il y a aussi des règles à respecter.
Interclasse, Éric Valmire sur France Inter.
C'est le rapport des jeunes d'Interclasse à la violence qui est exploré aujourd'hui. La violence que l'on voit sur les écrans depuis plus de 500 jours, la guerre en Ukraine, horreur et exaction. L'été dernier, les collégiens et lycéens avaient rencontré les grands reporters qui couvraient les conflits. Aujourd'hui, la parole à un soldat. Les collégiens de Joseph Soicco à Petite-Île, au sud de l'île de la Réunion, ont souhaité rencontrer un militaire. Ils ont vite découvert pourquoi l'armée était surnommée la Grande Muette. Toutes les questions autour de la guerre en Ukraine n'ont obtenu aucune réponse. Trop politique, trop stratégie, trop défense. Après avoir donc éliminé toutes leurs questions, nos collégiens réunionnais, Matisse en tête, ont donné un tour plus personnel à l'interview, dans leur conversation avec l'adjudant Mathieu du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine.
C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner! Et je suis revenu dans le monde! J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des proches, hein? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle? Ils nous jugent, sa femme, ils parlent.
C'est un moment dur pour tout le monde.
Vous, est-ce que vous, en tant que militaire, vous avez déjà fait la guerre?
Faire la guerre, bon, c'est un grand mot. Effectivement, je suis parti en Afrique, sur des théâtres qui ont une certaine tension. Après, moi, personnellement, j'ai jamais été au feu. En revanche, aide à la population, très valorisant. L'aide à la population et le maintien de la paix, c'est très intéressant.
Et quel genre d'entraînement avez-vous suivi ?
Comme tout militaire, de base, quand on arrive à l'armée, bon, on suit une formation initiale de militaire, hein, donc que ce soit pour le tir, les ordres serrés. Et ensuite, bien sûr, des entraînements plus tard sur tout ce qui est instruction de tir, les centres d'aguerrissement pour tout ce qui est survie.
Quand vous sautez en parachute, vous sautez plus de...
À quelle hauteur ?
Ça fait 120 mètres, on vous avait dit.
À savoir, bon, le saut en parachute, c'est une spécialité. Hein, donc, c'est une spécialité dans l'armée. Hein, c'est pas un métier, hein, c'est une spécialité. Donc oui, le saut en parachute, effectivement, à 300 mètres, les sauts d'exercice. À 400 mètres, donc les sauts d'initiation, c'est-à-dire en gros, quand vous faites le brevet para, le brevet parachutiste. Effectivement, en temps de guerre, ça peut descendre à pratiquement 120 mètres, oui, effectivement, mais en temps de guerre.
Et vous n'êtes pas désavantagé ?
Alors,
sur,
pas du tout.
C'est des combats terrestres et vous arrivez par l'air.
Au contraire, c'est justement c'est tactique en fait. Hein. Si on est débarqué par l'air, c'est que justement le terrain était reconnu par une équipe spécialisée juste avant. Et donc quand on saute, effectivement, plus on est bas, moins on est dans les airs, donc moins on est vulnérable, tout simplement. Moins on prend de temps à être débarqué au sol.
Qu'est-ce qui vous a poussé à aller faire l'armée ?
Bonne question. Je pense que je suis comme vous, j'ai été comme vous. Je me cherchais. L'armée, effectivement, ça fait rêver. Hein. L'uniforme, la droiture. Et voilà. Donc, je me suis renseigné au CIRFA. Ça m'a plu et je me suis engagé. Et maintenant, ça fait 17 ans que j'y suis et je ne regrette pas ma décision et je suis très content.
Merci à vous, adjudant Mathieu, d'avoir fait le déplacement et d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir.
C'était une interview réalisée par la classe de 4e D du collège Joseph Suaco à Petite-Île pour le projet Interclasse France Inter.
Allez, on reste ensemble, jusqu'au bout, ensemble.
L'adjudant Mathieu avec les collégiens de Joseph Suaco à Petite-Île, accompagné de Sophie Persson de Réunion La Première, très engagée dans l'éducation aux médias et partenaire naturel d'Interclasse.
Un fait divers m'intéresse parce que, précisément, il n'est pas, si vous voulez, à mes yeux...
Roland Barthes.
La simple relation d'un fait réel qui a existé, une sorte de relation neutre et objective, mais il est un véritable récit, comme on peut en trouver dans des contes populaires autrefois, c'est-à-dire une certaine façon que le journaliste a de déformer en quelque sorte le fait, de le décomposer en ses thèmes, en ses constantes, pour reconstituer un objet nouveau et nouvellement agencé qui est le récit.
Après la violence de la guerre, la violence dans les quartiers, la violence sur les réseaux, un sujet a émergé des conversations dans le CDI du lycée Désiré Nisard de Châtillon-sur-Seine en Bourgogne. La fascination pour les faits divers. Nicolas Da Silva et Morgane Maudin.
Le fait divers, c'est un sujet qui fascine la société depuis toujours. Et à Châtillon-sur-Seine, certains jeunes sont particulièrement sensibles à ce genre d'actualité. Et même si cette petite ville de 5000 habitants fait rarement la une avec de sordides affaires, Eloïse, Mila, Hugo raffolent des faits divers.
Quand j'en entends parler, j'ai envie de savoir ce qu'il s'est passé. Je veux connaître le dénouement, comme si c'était un film ou une série.
Les faits divers, c'est quelque chose d'irréel pour moi, comme si ça pouvait arriver qu'aux autres et jamais dans ma ville.
En fait, on en voit peu à Châtillon-sur-Seine et c'est peut-être pour ça que ça m'intrigue.
C'est pour ça qu'on a eu envie d'en discuter avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, un professeur de criminologie comme Alain Bauer.
La criminologie, c'est une science médicale, en fait. Hein. Ça fonctionne comme la médecine. Il ne faut pas s'attacher ou être émotionnellement atteint. Il ne faut pas faire ce métier autrement. Si vous n'êtes pas en possibilité, en situation de gérer la souffrance, la détresse ou la mort, ce métier n'est pas pour vous. Alors oui, au début, ça n'est pas facile. Il ne faut pas devenir totalement... immune à la souffrance des autres, il faut savoir la gérer, mais il faut créer une très grande distance, parce que quand on discute avec des criminels pour essayer de comprendre le mode de passage à l'acte, les raisons du passage à l'acte, les explications, je sais que je ne suis pas là pour arrêter les criminels, je ne suis pas là pour les juger, mais je suis là pour comprendre ce qui les a amenés à commettre leurs crimes et à essayer d'éviter qu'ils se reproduisent.
Est-ce que vous travaillez avec la police pour résoudre certaines affaires ?
Alors la police ou les polices font parfois appel... à moi, moins pour résoudre les affaires que pour comprendre les répercussions, les implications, pour anticiper un certain nombre de choses et surtout pour récupérer de l'expérience d'affaires anciennes qui leur permettent de comprendre des affaires en cours.
Selon vous, y a-t-il plus de crimes qu'avant ou est-ce qu'on les médiatise plus ?
Alors, je ne sais pas quand est avant, ce qui fait que avant ne veut pas dire grand-chose. En fait, ce qu'on sait en matière d'homicide, c'est-à-dire les morts documentées, et en France, depuis l'édit de Villers-Cotterêts, merci à François Ier, on a un état civil qui enregistre à la fois le moment où on est et le moment où on meurt. Sur les morts violentes, on est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants à 2. Donc je peux vous dire très, très officiellement que nous n'avons jamais été aussi en paix de toute notre histoire, en termes d'homicidité hors période de guerre, bien sûr. Par contre, il y a un retour de la violence physique qui est clairement identifié avec les tentatives d'homicide, qui ne sont que des homicides ratés. Depuis une vingtaine d'années, alors que nous étions descendus très bas, nous sommes remontés de manière assez sensible. Et donc, le premier événement, c'est qu'il y a une baisse tendancielle sur 4 siècles, 5 siècles maintenant, indiscutable, mais une remontée légère mais importante, visible, depuis une vingtaine d'années. Deux, la médiatisation et le fait des médias. Or, les médias, il y a 5 siècles, 4 siècles, 3 siècles, 2 siècles, c'était la rumeur publique. Ensuite, c'est devenu le journal. Là, aujourd'hui, vous avez la télévision, le journal, la radio, les réseaux sociaux. Et donc, il y a une surmultiplication des outils médiatiques qui renforcent la visibilité et la proximité du fait divers, qu'il y ait lieu en bas de chez vous ou à 20 000 km de distance. Donc, il y a une plus grande exposition médiatique aux faits divers, mais sur l'élément le plus important, la mortalité homicide, en tout cas en France, on est à un niveau qui, malgré tout, et malgré cette inversion de tendance, reste très bas.
J'aimerais savoir si, entre les films et séries, c'est un lien avec la réalité, parce que avec tout ce qu'on voit à la télé et tout, ça nous intéresse et on voudrait en savoir un peu plus.
Alors, j'écris un livre sur la relation entre le crime et le film. Ça va pas aussi loin que la série ou les téléfilms, mais c'est assez intéressant de voir ceux qui sont très proches de la réalité et ceux qui, à partir de la réalité, à partir d'un fait réel ou basé sur un fait réel, partent dans des problématiques extrêmement créatives, romancées, et donnent d'ailleurs en général une image assez sympathique du criminel, même quand celui-ci ne le mérite pas. Je pense par exemple au serial killer particulièrement. Il y a là un sujet, mais qui correspond à l'intérêt du public pour cela. Il y a des faits divers depuis qu'il y a des crimes, et ça a commencé au théâtre antique, et ça se termine aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou les plateformes de séries. Alors j'en regarde beaucoup, parce que ça m'intéresse. J'ai été expert sur des plateaux pour limiter la créativité immense des réalisateurs et pour que ça ressemble à peu près à quelque chose. Il faut reconnaître que les Anglo-Saxons sont beaucoup plus proches de la réalité que les Français, par exemple. Les Français disent « c'est de la fiction et donc on fait comme on veut ». Les Anglo-Saxons essayent de ne pas se faire trop ridiculiser par justement les experts qui vont le lendemain matin dire « film formidable, rien à voir avec le réel ».
Quel crime vous a le plus marqué et pourquoi ?
Ah, alors d'abord, il y a ceux dont je ne peux pas parler parce que j'ai été expert dessus. Disons que les crimes qui me choquent le plus sont les crimes qui concernent les enfants. Quand en plus vous êtes avec l'auteur, garder la distance n'est pas si facile. Ça marque plus que n'importe quoi d'autre.
Selon vous, l'affaire Grégory est le crime le plus médiatisé de France ?
Alors, c'est pas le plus médiatisé, mais c'est le plus traumatique. D'abord, c'est un enfant. C'est un enfant dans un contexte familial et local extrêmement compliqué, où les services enquêteurs ont fait un concours des plus incompétents à une période où les techniques d'enquête, les règles de l'enquête, la protection de la scène de crime étaient assez aléatoires, qui était un traumatisme pour eux à tel point que régulièrement ils essayent de recommencer pour enfin trouver le coupable. Donc c'est probablement le cold case le plus emblématique de la période contemporaine.
Y a-t-il un profil type de criminel et quelles sont leurs motivations ?
Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui une forme d'hybridation, c'est-à-dire que, disons qu'il y a tellement de profils qu'il n'y a plus de profils et que du coup, à chaque élément, il faut se donner une capacité à les rapprocher de quelque chose qu'on connaît déjà, tout en se disant clairement que ça ne va pas matcher à 100%.
Alain Bauer, merci d'avoir pris le temps de répondre aux lycéens d'Interglace à Châtillon-sur-Seine qui s'étaient donc rendus dans les studios de France Bleu Bourgogne pour cette interview. Vous dites intervenir beaucoup dans les lycées et collèges, alors que, on l'a bien compris durant l'interview, votre emploi du temps est quand même assez contraint, restreint. Pourquoi donc cette dimension pédagogique en plus dans votre agenda ?
D'abord parce que je suis prof. Je trouve extrêmement important qu'on puisse décrypter le fait divers plutôt que le subir. Non seulement avec le regard de « qu'est-ce qui se passe ?», mais comprendre pourquoi ça se passe, comment ça se passe, y compris parce qu'on le fait très peu en France, avoir une vision de du fonctionnement de notre système pénal. On rend la justice au nom du peuple français, mais il en est très souvent exclu, alors que dans les pays anglo-saxons, on apprend à être juré, dans les collèges et surtout les lycées. Et je pense qu'il y a là un enjeu de pédagogie absolument indispensable. Et pour moi, c'est une priorité.
Qu'est-ce qui vous frappe dans le regard des adolescents ?
Un immense besoin de comprendre, un immense besoin de savoir. Pas du tout une vision préjugés du monde et puis une certaine fraîcheur. Il n'y a pas de questions taboues. Et l'important, d'ailleurs, c'est de fournir moins des réponses que des moyens pour eux-mêmes de comprendre ce qui se passe. Je suis plus pour apprendre à pêcher que de fournir du poisson.
Bon, vous, est-ce que ça vous a donné envie de travailler là-dedans plus tard ?
Oui, parce que j'ai toujours voulu être dans ce milieu et...
Tu le verrais bien un jour intégrer la promotion d'Alain Bauer ?
Bah, j'y pensais déjà avant. Ça m'a un peu plus éclairci sur le sujet.
Alors, on n'est pas le seul groupe à s'être occupé des faits divers, puisqu'il y a un autre groupe qui s'en est chargé.
Moi, j'ai choisi de faire partie du groupe des faits divers parce que c'est un sujet qui me passionne depuis maintenant plusieurs années. Après, je suis beaucoup curieuse et tout ce qui est crime, cambriolage ou agression, ça me passionne.
Aujourd'hui, les faits divers sont largement médiatisés. On a rencontré Vannick Berton, qui est une actrice directe de la médiatisation des faits divers. Elle est journaliste fait diversière depuis 4 ans au Bien Public, un journal quotidien en Côte d'Or.
Ça m'attire parce que c'est de l'humain avant tout. Et moi, l'humain me touche, hein, évidemment. J'aime me poser des questions en me disant comment on peut en arriver là ou quelles conséquences ça peut avoir sur une personne, une famille, sur la société aussi. Parce qu'il y a des faits divers très retentissants qui peuvent générer des nouvelles lois. Et effectivement, moi, c'est ce côté-là qui me plaît. C'est pas le sang, le sordide, évidemment. Je pense qu'en fait, malgré nous, on s'y intéresse parce que malgré nous, ça nous touche.
Et quand il y a un fait divers et que vous êtes sur place, comment gérez-vous vos émotions ?
Bah, c'est dur parce que on est aussi des êtres humains, hein, donc on n'est pas des robots. Donc on peut être touché en arrivant sur place. Après, à nous de nous dire « bon, je suis là, je fais mon travail, je pose les questions ». Quand on va voir par exemple une personne qui est directement touchée par le fait divers, ça peut être quelqu'un de la famille et tout, il y a une façon aussi d'arriver, on n'est pas des charognards, on n'est pas là à dire « alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-nous tout ». Non, pas du tout, il faut arriver en se présentant, si quelqu'un est décédé, en présentant nos condoléances, même si on ne connaissait pas la personne. On est là aussi pour faire notre travail, pour informer. On va voir les gendarmes ou les policiers selon qui est sur place pour prendre des informations. On va voir des témoins. Je pense qu'il faut avoir une approche vraiment, encore une fois, très humaine.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Cette sortie au Bien Public à Dijon m'a permis de découvrir les vrais visages du métier du fait divers et de comment les accidents, les crimes, les vols, bref, les faits divers sont traités par les journalistes.
C'était un reportage de Mila Messigaoui, Luciana Guéga, Noah Bastard et Louise Valner, élèves de première au lycée Désiré Nisard.
Et avec auprès d'eux, Sophie Perrénon du Master Média de l'Université de Bourgogne. Hamza, avec un titre rare dans l'histoire de la chanson, I Love You. En même temps, c'est universel et intergénérationnel.
Comment pourrais-je oublier ? Comme si tout ça n'avait jamais existé. Ma patience a ses limites que tu ne comprends pas. Je n'ai jamais choisi de prendre cette distance. Girl, I love you. I'm loving you. Tout ça n'est que passager. Je lève mon verre à ta santé, baby. Ça ne tient pas qu'à moi. J'aimerais te revoir, mais ça ne tient pas qu'à moi. De loin, j'espère juste que tu te sens bien. J'ai peur qu'un jour je ne ressente plus rien. Girl, I love you. I'm loving you. On s'aimera peut-être ailleurs. En attendant, je me soigne. Baby.
Hamza sur France Inter, le monde de la justice et l'univers carcéral sont les autres témoins de la violence qui traverse une société. Cette violence que les jeunes ont voulu explorer dans Interclass cette année. À Strasbourg, le collège Hans Arp jouxte une maison d'arrêt. Les élèves ont voulu connaître ce monde si loin, si proche. Fanny Léonore Crouzet.
Au sud de Strasbourg, il y a une maison d'arrêt devant laquelle les enfants du collège Hans Arp passent presque tous les jours. Elle est pour eux l'objet de multiples questions sur le milieu carcéral et surtout sur la justice. Pourquoi est-ce qu'on envoie quelqu'un en prison? Qui juge et qui prononce un verdict? Est-ce que tout le monde a le droit d'être défendu, même le pire des criminels? Une petite dizaine d'élèves de la classe de 4e a souhaité se rendre au tribunal de Strasbourg pour le visiter et pour voir un procès. On les retrouve dans le palais de justice et la première étape, c'est de passer les portiques de sécurité.
Et les jeunes, on va vous contrôler alors. Allez-y, monsieur, je vous en prie.
On les retrouve dans le palais de justice avec Servane de Pastre, Pierre Bazin et Simon Chenot. Première étape, passer les portiques de sécurité.
Viens, on va leur donner une boîte, on va leur donner.
Ils m'ont tout pris. J'avais deux ciseaux et quatre compas. Ça, c'est pour autodéfense. Hein.
On dirait pas un palais de justice, on dirait plutôt un palais de roi.
C'est immense, il y a trop de trucs.
Qu'est-ce que vous faites?
On fait des photos. Pour garder un souvenir.
Tiffany Conin est avocate au barreau de Strasbourg, vice-pâtonnière élue de l'ordre, et Magomed lui a posé la question qui brûle les lèvres à tout le monde.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas vouloir défendre un accusé?
Non, ça m'est jamais arrivé de ne pas vouloir défendre quelqu'un. On a eu des dossiers très difficiles, notamment des dossiers de viol sur mineurs. Je n'ai jamais refusé. Certains dossiers étaient très lourds à porter. Émotionnellement, c'était difficile. Il y avait un stress particulier. On n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il a fait. Et on n'est pas, en l'occurrence, dans les faits de viol, d'accord avec ce qu'il a fait. Mais ce qui nous anime, c'est de dire que pour qu'il y ait une justice de qualité, il faut qu'une personne soit défendue.
Au tribunal, le groupe a fini sa visite. Maintenant, place au vrai procès. Ils sont juste devant la salle de comparution immédiate de Strasbourg.
Une comparution immédiate, en fait, c'est un procès qui est fait rapidement. Et du coup, en fait, on va présenter l'accusé directement devant les magistrats.
Vous êtes prêts? Madame l'interprète est là.
L'audience va commencer, il va falloir qu'on coupe le micro.
Le tribunal, veuillez vous lever.
En sortant, place aux premières impressions après ce tout premier procès.
On venait et il faut se lever. Il partait, il faut se lever. Et il revenait, il faut se lever. À la fin, on a fait des squats. Là.
Est-ce que vous avez entendu ce qu'il avait pris comme peine?
Ouais, il a pris 4 mois.
Il avait pris 1 an. Non, et en fait, mois. Non, au début, parce qu'il avait déjà été jugé. Il a pris 1 an, et là, il lui a encore donné 4 mois.
C'est un peu logique, parce qu'en fait, il a fait quand même des conneries, quoi.
Nelly.
Moi, ça m'a donné envie d'être avocate, défendre les personnes. J'aime bien, en temps normal, j'aime bien défendre les personnes et tout. Mais genre là, tu défends une personne pour sa vie, en fait. En gros, genre, tu défends pour qu'elle fasse des trucs dans sa vie. Bah, j'aime bien.
Comparution immédiate. Y assister est une chose, en rendre compte une autre. C'est le fameux compte-rendu d'audience des journalistes qui écrivent la chronique judiciaire. À la Courneuve, Emmanuel Leclerc du service police-justice de France Inter a initié à cet exercice les troisièmes du collège Poincaré.
Comparution immédiate, c'est l'une des formes de procès à laquelle on peut assister tous les jours dans les tribunaux. Des procès qui n'ont pas demandé de longues enquêtes ou des personnes interpellées par la police ou la gendarmerie sont jugées à l'issue de leur garde à vue qui a pu durer entre 24 heures et 48 heures. Vol, violence conjugale et puis très souvent des histoires de vendeurs de drogue. Récit de 3 parcours de vie et de stratégies de défense à géométrie variable.
C'est d'abord Ryan qui arrive par la porte de derrière avec une policière. Il a 20 ans. Il a déjà été condamné 5 fois pour vol aggravé, conduite de voiture sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Ryan déclare qu'il ne veut pas être jugé aujourd'hui pour mieux préparer sa défense avec son avocate. Les juges veulent quand même lui poser des questions pour savoir s'ils vont le laisser en détention provisoire ou le libérer en attendant son procès. D'abord, ils veulent savoir pourquoi il n'a pas effectué sa dernière peine de tige, travail d'intérêt général, pourquoi il n'a pas payé ses amendes ou encore pourquoi il n'a pas donné son adresse lorsqu'il a été interpellé par les policiers. Alors Ryan explique qu'il a eu une enfance et adolescence difficile, qu'il a été victime de violences avec son beau-père, qu'il a subi des abus sexuels dans un foyer, qu'il vit dans un squat, qu'il souffre de mal-être. Mais les magistrats ne semblent pas trop croire à ses explications, comme s'il en faisait un peu trop. Ryan affirme qu'il a perdu ses papiers, qu'il ne peut pas les faire refaire et demande un coup de main au tribunal. Ah mais non, le tribunal ne donne pas de coup de pouce, répond le président. Le procureur craint que si Ryan a déjà donné de fausses adresses, qu'il ne présente pas ses papiers, c'est qu'il risque de disparaître dans la nature et que Ryan ne donne plus l'impression de vouloir se faire soigner et que s'il reprend encore sa voiture, il risque d'être très dangereux. Le procureur demande qu'il soit placé en détention provisoire.
Pour la deuxième affaire, c'est Bakari. Il a à peu près le même âge, une vingtaine d'années. Dans l'examen de sa personnalité, il explique qu'il a perdu son père et qu'il a voulu prendre ses responsabilités pour aider sa famille. Il dit qu'il n'a pas insulté les policiers quand ils sont arrivés chez lui. Ils ont trouvé un bon paquet de billets dans la chambre de sa sœur. Et puis, il y avait de la MDMA, la drogue de synthèse. Il explique que c'était pour sa propre conso, que ça fait longtemps qu'elle était là, que c'était juste pour aller faire la fête. Le chien des policiers s'est arrêté partout dans l'appartement. Les billets sentaient la drogue. Il y avait aussi des tickets de jeux de hasard. Il a refusé de donner les codes de son téléphone. Tout ça, il le raconte très bien, avec même un petit sourire parfois, mais ça ne fait pas rire les magistrats.
Le troisième jeune qui comparaît devant le tribunal à 18 ans, Boubacar est originaire de la Guinée. Il a été interpellé porte de la Chapelle à Paris, dans le nord de la capitale. C'est là qu'il y a souvent des vendeurs de crack. Les policiers avaient installé une caméra discrète. On a trouvé 143 euros dans ses poches, avec beaucoup de petites pièces de monnaie. Le jeune prévenu raconte qu'il ne pouvait pas faire autrement pour gagner un peu d'argent pour vivre. Son avocate explique que tout allait bien, il y a encore quelques mois, quand il a eu 18 ans. Boubacar ne pouvait plus être abrité et nourri dans les structures pour mineurs. Il a suivi une formation, un CAP dans le bâtiment. Il est premier de sa classe, mais là, il n'a pas encore eu son titre de séjour parce qu'il y a des gros problèmes de retard à la préfecture. Mais l'avocate assure qu'elle a les preuves que son client a déjà un travail qui l'attend, qu'il ne faut surtout pas qu'il aille en prison.
Dans le premier dossier, le tribunal a donc décidé de placer le prévenu en détention provisoire en attendant son procès. Dans la deuxième affaire, le tribunal a condamné le prévenu à 10 mois d'emprisonnement ferme. Assorti d'un mandat de dépôt, il est allé directement en détention. Le tribunal a confisqué tous ses scellés, c'est-à-dire l'argent, la drogue et les tickets chance. Dans le troisième dossier, le jeune Guinéen a été condamné à 8 mois d'emprisonnement, aménagé sous forme de semi-liberté pour qu'il puisse continuer ses études et commencer à travailler.
On peut se réjouir du talent de nos jeunes chroniqueuses judiciaires qui s'en sortent plus que bien. Le tribunal, le poumon de la société avec ses affaires de la vie quotidienne, des audiences qui débouchent parfois sur des peines de travail d'intérêt général, le fameux TIGE. Et justement, Basile Debure, un journaliste engagé dans l'éducation aux médias, s'est vu proposer d'intervenir auprès de ces jeunes écopants de peines de TIGE. Il en a fait un livre, Que le destin bascule, publié chez Flammarion. C'est le récit de cette expérience initiée il y a 7 ans. Et Basile, autant se le dire, vous étiez plutôt inquiet au début de l'aventure.
J'avais beaucoup de préjugés à l'égard de ces jeunes qu'on appelle les délinquants, qu'on enferme en permanence dans un imaginaire dangereux et inquiétant. Donc je me rendais compte tout simplement que j'avais un peu peur, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement absurde et que ces jeunes ne correspondaient pas du tout à l'image qu'on pouvait s'en faire. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de raconter leur histoire.
Monsieur, avant tout, vous êtes pour ou contre Charlie Hebdo ? C'est un long débat, je peux pas répondre comme ça. Ma question est simple, pour ou contre ? Déjà, il faut commencer par parler de Charlie Hebdo, expliquer ce qu'est un journal satirique. Essayez pas de m'embrouiller, c'est pour ou contre ? Ça t'intéresse pas d'en discuter ? Non, pour ou contre ? Alors je suis pour. Alors ok, je vous parle pas.
Ça peut être un peu manichéen, parfois, effectivement. On a beaucoup de débats dans ces stages et je voudrais d'abord dire qu'ils sont d'une grande richesse et que moi, il y a quelque chose que j'admire beaucoup chez ces jeunes, c'est leur capacité à changer d'avis, à se remettre en question. Ils sont extrêmement curieux et ils sont capables, à partir de nouvelles informations, d'avoir une nouvelle grille de lecture du monde. Mais il y a certains sujets, comme celui de Charlie que vous venez de citer, qui sont assez sensibles et sur lesquels ils peuvent avoir des positions assez radicales, comme ce jeune qui me demande de me positionner dès le départ pour ou contre Charlie et parce que je dis que je suis plutôt pour, il refuse de me parler pendant toute la journée. Après, sur le cas de Charlie, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, ils ont des positions très dures sur ce journal, mais ils ne l'ont jamais lu. Donc moi, je viens toujours avec un exemplaire de Charlie que je fais tourner dans la salle. Et il y a un moment, à chaque fois dans le stage, où on entend un éclat de rire, un jeune qui est tombé sur un dessin qui l'a fait marrer, qu'il montre aux autres, et en fait, tout le monde rigole. Et on se rend compte vraiment du pouvoir du rire pour justement défaire un peu ses idées reçues. Après, il y a aussi un jeune garçon, pareil, dans un stage, qui prononce cette phrase, bien fait pour leur gueule quand on parle de Charlie. Et c'est un des personnages que j'ai suivi dans mon enquête. Donc quand je l'ai retrouvé quelques mois après, on a reparlé de cet épisode et il m'a dit « Mais tu sais, moi je sais même pas ce que c'est Charlie, l'islam je m'en fous un peu, j'ai dit ça pour vous embêter, pour vous provoquer ». Donc il y a aussi une posture comme ça, c'était un ado, c'était dans le cadre d'un stage pour mineurs, il avait 17 ans, donc il y a aussi, on le sait, une posture adolescente de provocation.
Gabriel, la violence policière va se faire frapper dans un fourgon.
Il faut savoir qu'il y a 25% des condamnations à des tiges qui le sont pour outrage et rébellion. Et ces questions d'outrage, elles découlent souvent d'un contrôle de police qui a dégénéré. Moi, je suis blanc, je viens d'une famille bourgeoise du centre de Paris, je n'ai jamais été contrôlé de ma vie. Quand je leur dis ça, ils ne me croient pas. Et donc, ce fameux Gabriel, il descend de chez lui, il y a une brigade dans son hall, il se fait contrôler, le contrôle dérape, il est passé à tabac à l'arrière du fourgon. Donc il me dit ça, j'ai évidemment envie de le croire, mais je dois aussi vérifier ce qu'il me dit. C'est quelque chose que j'entends très souvent malheureusement, mais je dois aller vérifier. Donc au cours de mon enquête, j'ai trouvé la trace du commissaire du 18e arrondissement qui était en poste et en charge des cas de flagrant délit à l'époque, qui va me raconter que la brigade en question, eh ben en fait, elle a été condamnée, elle est passée devant un tribunal. J'ai assisté à l'audience en appel et les faits qui sont reprochés à cette brigade sont exactement les mêmes que ceux que Gabriel m'a rapportés. Je me rends compte du coup que cette histoire est malheureusement probablement vraie et cette brigade a été condamnée.
Face à la police, baisser la tête, c'est bien plus grave que d'être arrêté. Au nom des codes de sociabilisation masculine, des dizaines de jeunes garçons sont ainsi embarqués et condamnés pour outrage sur l'autel de leur virilité. Et inutile d'attendre la moindre compréhension des officiers de la BAC qui répondent aux mêmes injonctions.
Le rapport à la police, c'est vraiment quelque chose de clé dans les trajectoires de ces jeunes. Moi, j'ai compris depuis que je suis tout petit qu'il fallait faire profil bas, qu'il fallait s'écraser, qu'il fallait dire oui monsieur. J'ai pu identifier dans mon éducation les moments clés où il fallait la mettre en veilleuse. Or, ces jeunes, ils ont une construction de leur masculinité où ils doivent en permanence être dans le défi et l'affrontement avec tous les représentants de l'institution, que ce soit les professeurs à l'école ou évidemment la police. Donc en fait, les contrôles de police répétés dans ces quartiers, c'est la quasi-certitude que ça va déraper.
Basile Debure, merci encore d'être venu ici dans Intercast.
Merci à vous.
Basile Debure, que le destin bascule au-delà de l'éducation aux médias, un état des lieux très clinique de notre société, c'est chez Flammarion. Et ça, c'est Simone Ringer sur Inter. Dan Simone Ringer, la playlist d'Interclass.
Bonjour, nous sommes au Stade de France. Nous sommes venus regarder le match France-Grèce.
Ils sont heureux, Katajou, Chaïma, Maïssa, Mamadou et Fatoumata. Ils n'avaient jamais mis les pieds au Stade de France et pourtant, ils habitent tout près. Ces troisièmes du collège Pierre de Jeter à Saint-Denis ont été embarqués par Manon Vautier-Chollet qui les a accompagnés toute l'année dans Interclass et a voulu leur faire ce cadeau, un match de l'équipe de France de foot au Stade de France qui a été leur grand sujet de reportage de la saison sous l'angle de la sécurité pour prévenir la violence dans les grands événements.
Notre collège se trouve à 1 km du Stade de France. On a l'habitude de passer devant. Pour la première fois, il va accueillir deux événements très importants en seulement un an. La Coupe du Monde de rugby en septembre, puis les Jeux Olympiques et Paralympiques à partir de l'été prochain, avec notamment les épreuves d'athlétisme.
On a rendez-vous dans la salle où tout se passe pour la sécurité. Comme pour le match, on passe par le poste de sécurité pour donner notre identité et faire la fouille.
Ils n'avaient pas de ticket, mais par tous les moyens, ils ont réussi à s'introduire dans le stade. Des supporters qui escaladent les grilles, des tentatives de passage en force. Scène de chaos à l'entrée du Stade de France. Bilan 68 personnes interpellées, mais les forces de l'ordre et les stadiers sont débordés.
On voit à notre passage les nouvelles bornes installées pour scanner les billets qui seront utilisés pour le Mondial et les JO. Et nous voilà dans la salle. Une cinquantaine de personnes sont réunies pour gérer la sécurité. Dedans, il y a plusieurs caméras qui filment tout le stade et les alentours. Et la salle a des grandes vitres avec vue sur toute l'enceinte. Jean-Philippe Dos Santos, le directeur sûreté, nous a expliqué comment ça fonctionnait.
Toute la partie gauche ici, en fait, est réservée aux forces de l'ordre. Des effectifs qui sont dispatchés tout autour du stade, sur le mail et dans les rues environnantes et même parfois dans Saint-Denis, de manière à sécuriser tous les cheminements.
Jusqu'à 6000 personnes travaillent pour que tout se passe bien, de la sécurité aux pompiers. Chaque événement, comme un concert, demande au moins un mois de préparation. C'est bien plus pour préparer la Coupe du Monde et les JO. D'ailleurs, Paris 2024 devra recruter entre 20 et 30 000 agents de sécurité partout en France.
Loïc Durossel, directeur général adjoint du consortium du Stade de France, le disait, il n'y a jamais eu deux événements aussi rapprochants en si peu de temps.
On va enchaîner 9 mois entre la fin de la Coupe du Monde et le début des Jeux Olympiques. Ça ne s'est jamais fait nulle part ailleurs. C'est un vrai challenge. C'est à la limite du raisonnable, pour être franc. En termes opérationnels, c'est très compliqué d'enchaîner aussi rapidement entre deux très grands événements comme ça. Alors ici, ce sera le stade olympique, ce qui veut dire que c'est les épreuves d'athlétisme, et puis ensuite de para-athlétisme pour les Jeux paralympiques. Et puis vous aurez en plus pour les Jeux olympiques le rugby à 7. Et vous aurez deux cérémonies, la cérémonie de clôture des Jeux olympiques et la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Donc au total, ça fait l'équivalent de 45 matchs. Donc, c'est considérable, on n'a jamais fait un événement de cette taille-là au Stade de France. Donc on est très concentré, la pression là aussi elle est énorme, mais on est très fiers d'accueillir ça.
Un reportage de Kadjatou, Chaïma,
Ali Ousmane,
Maïssa,
Mamadou,
Fatoumata.
Interclass, une émission d'Éric Valmire et Fanny Léonore Crouzet, réalisée par Lilian Allôme, composée par les élèves d'Interclass et Valentine Chédebois. Après le flash, rendez-vous avec Leïla Kadour-Boudadi pour I Love Le Grand.